Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Pour introduire notre réflexion ce matin, nous allons faire cette lecture. Genèse, chapitre 38, où il est question d'un enseignement sur la vérité. Non pas notre vérité à nous, mais la vérité de Dieu. La vérité de sa parole. La vérité dans nos cœurs. La vérité dans nos vies. Genèse, chapitre 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit une fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adullamite. On en informa Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shelah était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit « Laisse-moi aller vers toi ». Elle ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Elle répondit « Mais quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevron par son ami l'Adullamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm, sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne lui ai pas donné Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme le prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira sa main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérets. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zéred. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Et nous allons prendre ce texte et nous laisser enseigner sur ce que nous avons mis en avant tout à l'heure, la vérité du cœur. L'histoire de Judas et Tamar, c'est quand même une drôle d'histoire. Alors je pense que quand on lit ça, puisque ça se trouve inséré dans l'histoire de Joseph, la belle histoire de Joseph, on a envie de passer parce qu'on se dit, mais comment une histoire comme ça peut-elle arriver et peut-elle être inscrite dans la Bible? On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. C'est une histoire, si vous me le permettez, qui décoiffe. C'est le moins qu'on puisse dire, si j'emploie un mot moderne, une histoire qui décoiffe. Parce que, à l'évidence, et c'est la première vérité qui ressort, c'est que Dieu ne subit pas les choses mauvaises et les péchés de son peuple. Je rappellerai ce matin que Dieu est saint, et il est trois fois saint, et il se déclare le Dieu saint. Et je répète, c'est que Dieu ne subit pas les choses mauvaises et les péchés de son peuple. Il s'en sert étonnamment. Alors, on a peut-être, nous les hommes, du mal à comprendre comment Dieu fait, mais il nous l'enseigne. Il s'en sert étonnamment dans le cours de l'histoire et de son plan. Alors je m'explique, parce que vous allez ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, et vous allez voir comment Dieu se sert des choses, comment il fait concourir les choses, finalement, selon ses desseins. Et dans Matthieu, chapitre 1er, écoutez bien, on va lire les premières phrases. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pérets et Zara. » Vous avez compris? C'est quand même assez étonnant. Parce que finalement, on a lu dans l'Évangile, on a lu quoi? La généalogie de Jésus-Christ. Même une histoire sulfureuse, parce que c'est le mot, même une histoire de ce type, comme celle-ci, eh bien, a été portée dans la Bible. C'est renversant. Et ça commence ainsi. « En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. » Vous avez remarqué que Judas fait partie de la famille choisie, avant que ce soit le peuple élu, c'est la famille choisie. Et le texte nous dit d'une manière très brève qu'il s'éloigna de ses frères. Peut-être pour nous montrer, je ne dis pas peut-être, mais certainement pour nous montrer que l'éloignement, eh bien, n'est jamais très bon. Et peut-être que nous en avons encore toujours les preuves dans notre monde, qu'à chaque fois qu'il y a là, dans le contexte même de l'Église, un éloignement de ses frères, eh bien, c'est jamais quelque chose qui soit forcément formidable à terme. Et Judas donc s'éloigne et il part pour l'aventure. Vous savez, le fils prodigue, quand il quitte la maison de son père, il s'éloigne aussi. Et vous savez comment il a vécu et vous savez comment il est revenu aussi. Mais là, c'était positif parce que finalement, il est revenu. C'était déjà quelque chose. Et vous avez aussi saisi cette petite expression « en ce temps-là ». Et je dirais que, si je me puis sur cette petite parole, je dirais que « en ce temps-là », j'ajoute, il s'en est passé des choses. Ah oui, c'est le chapitre 38. Il s'en est passé des choses en ce temps-là. Parce que si vous voulez que nous nous rappelions un petit peu ce qui s'est passé, c'est que Jacob, le père, eh bien, pleure. Il pleure, Joseph. Joseph est vendu par ses propres frères. Dina, la sœur, est violée. Ensuite, Siméon et Lévi assassinent. Alors on peut dire qu'il s'en est passé des choses. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Ça fait beaucoup pour une histoire. Ça pourrait nourrir tous les feuilletons et toutes les sagas du monde entier. Et nous pouvons dire que nous sommes au cœur d'une catastrophe familiale. Et pourtant, Jacob, le père, le patriarche, c'est un homme de Dieu. Alors allez comprendre quelque chose dans cette affaire. Eh oui, une tragédie familiale. Et ils sont tous croyants, descendants d'Abraham, le pauvre Abraham. S'il avait su ça. Mais il était mort. Et valait mieux qu'il soit mort. Parce que dans ce temps-là, on y trouve dans cette famille beaucoup de lâcheté, des péchés et des iniquités énormes. Énormes. En ce temps-là, mais je voudrais mettre un bémol quand même, c'est que autant que le monde existera, autant qu'il y aura des hommes sur la terre, le péché scandalisera. Et Dieu continue, permettez-moi de dire, Dieu continue à faire son œuvre. Parce que ce n'est pas ce qui va arrêter Dieu dans le plan qu'il a déterminé. Et ce n'est pas ce qui va arrêter Dieu d'accomplir sa volonté. Ce n'est pas parce que les hommes se sont quelquefois, eh bien là, étripés sur les champs de bataille que le plan de Dieu s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ceci et cela que le plan de Dieu va se stopper en disant « moi j'arrête, je me décourage ». Mais Dieu ne se décourage pas. Il peut y avoir n'importe quoi qui arrive. Dieu reste Dieu et Dieu reste saint. Mais quel dommage que cette tragédie ait eu lieu dans une famille de croyants. C'est tout ce que nous pouvons regretter. Et ça, ça semble inexplicable. L'amorce de toute cette situation, de toute cette chose tellement triste, c'est que Judas épouse une Cananéenne. Ça commence là. Il épouse une étrangère. Et nous allons reprendre. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme. Il alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Le premier s'appelle Er. Elle enfante un second qui s'appelle Onan. Elle enfante un troisième qui s'appelle Shéla. Voilà. Une famille qui se constitue. On ne peut que se réjouir. Mais il avait quand même le choix. Il a vu. Il n'a pas attendu que ça vienne d'autre part, mais il a vu, il a pris. Et c'était une Cananéenne, tout simplement. Et nous voyons que Judas désobéit, et sans le savoir encore, ses choix vont le conduire dans une impasse. Mais ce n'est jamais une impasse pour Dieu. N'accusons personne. Parce que souvent, c'est nous qui provoquons nos propres tourments et souvent nos propres chutes. Et c'est ce que l'histoire nous raconte maintenant. C'est ce que l'histoire nous dit. Sa femme est la fille de Shua, le Cananéen. Et nous l'avons vu ensemble, elle lui donne trois fils. Le premier s'appelle Er. Ça veut dire tout simplement « qui veille ou éveillé ». Le deuxième s'appelle Onan. Ça signifie « iniquité ». C'est un nom très lourd à porter. Hein. Et il est mort comme le précédent parce qu'il refusait une postérité à son frère qui était mort prématurément à cause de sa méchanceté. C'est ce que nous dit le verset 7. Mais cela, c'est la mort de ces deux enfants de Judas. née de cette union un petit peu étrange avec cette cananéenne, eh bien, ça nous montre que celui qui refuse la vie à son frère est déjà mort. Eh oui. Par défaut d'amour. Par défaut d'amour. Dans le livre de, ou plutôt l'épître de Jean, permettez-moi de relire cela. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous, nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et quand Onan, le deuxième, qui va subir le même sort que le premier, a refusé finalement de prendre sa belle-sœur, parce que je vais vous expliquer comment ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il fallait qu'il y ait l'héritage qui se suive. Il fallait qu'il y ait le sang qui continue. Et là, eh bien, l'héritage qui était donné par Dieu, eh bien, restait finalement en possession de la famille. Alors, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit finalement que celui qui n'aime pas son frère est déjà mort. Et finalement, eh bien, il a vu que, eh bien, en faisant pas ce qu'il devait faire, eh bien, lui aussi est mort. Et puis le troisième, il s'appelle Shéla. Et ça veut dire prière. Vous voyez un peu le celui qui est éveillé, celui qui est iniquité, et puis celui qui est prière, ça veut dire. Disparition du premier, disparition du deuxième. Mais l'autre est trop petit. Il est trop jeune, c'est un enfant. Et il faut attendre. Parce que dans la succession, comme Dieu l'avait établi, eh bien, le premier mourait. Il était remplacé par le deuxième mourait, il était remplacé par le troisième. Vous connaissez la petite parabole que Jésus nous donne dans l'évangile de Luc, il me semble. Quand ils seront au ciel, qui sera le mari ? Oh là là, c'est compliqué. Alors il meurt. Mais il faut attendre, parce que Shéla est trop jeune. Et attendre encore. Et pourquoi justement Judas n'a-t-il pas donné son dernier fils à la veuve ? Du premier et du deuxième, le texte nous dit alors, « Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Et la raison qui lui faisait parler ainsi, c'est qu'il parlait de cette manière dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Eh oui, il s'en passe des choses quand on attend. Il s'en passe des choses quand il faut attendre et attendre encore. Et quand l'attente se prolonge, il fallait attendre que Shéla devienne un homme. On ne pouvait pas le marier avec une femme qui était là, eh bien, beaucoup plus vieille. Il fallait qu'il devienne un homme, naturellement. Mais nous apprenons beaucoup sur le caractère de Judas. Judas est ce type d'homme qui ne va jamais au fond des choses. Et on va le voir, on va le découvrir. On pourrait peut-être dire aujourd'hui, mais c'est un superficiel. C'est vrai, dans un certain sens. Et il trépigne. Il fait tout avec des compromis. Et je dirais même qu'il va aller même faire des compromissions. Un compromis, c'est une chose. Une compromission, c'est honteux. Et là, le temps passant, il oublie la promesse qu'il avait faite à sa belle-fille de lui donner son troisième fils. Cette promesse faite à Tamar de la marier à son dernier fils, selon la loi du... Comment elle s'appelait cette loi ? La loi du Lévirat. Ça vous rappelle rien ? La loi du Lévirat, qui faisait que la succession, eh bien là, est bien continuée. Et il ne va pas se souvenir, ou volontairement, il ne va pas vouloir s'en souvenir, parce qu'il craint que si Shéla, c'est son dernier fils, eh bien se marie encore avec Tamar, eh bien elle porte la poisse, cette femme. Elle va mourir lui aussi, et il craint, il dit, bon, moi je reste comme ça, et puis je ne bouge pas. Et si Judas avait été quelque peu honnête, alors à ce moment-là, il aurait fait autrement. Et ça lui était permis de faire autrement, c'est qu'il aurait donné à sa belle-fille Tamar une lettre libératoire. Comprenez ce que ça veut dire ? Afin qu'elle puisse se remarier avec un autre que dans la famille. Mais il la retient de force. Et par négligence, il ne fait pas ce qu'il faut faire. Et tout le fond du problème, il est là. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et vous savez, quand on fait les choses qu'il faut faire devant Dieu, il n'y a jamais de problème. C'est quand on ne les fait pas qu'on a des problèmes. Alors il tourne le dos à son passé, il s'en va. et sans régler ses engagements et ses promesses. Alors il va à la mort de sa femme, Judas, il va à lui partir. Et le verset 12 nous dit que les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, la Dunamite. Et à ce moment-là, on en informa Tamar et on lui dit « Ton beau-père qui monte à Timna, eh bien viens pour tondre les brebis. » Voilà, on annonce la chose à Tamar. Maintenant, nous allons voir qui est Tamar. Parce qu'on a parlé des fils, on a parlé également, eh bien là, de Judas, mais qui est Tamar? Son nom veut dire palmier. Et vous savez qu'un palmier est un arbre du désert particulier aux oasis. Alors ça peut être nous laisser penser à des choses très intéressantes. Palmier, Tamar, ça veut dire le sens palmier. La façon dont Tamar va se comporter de prime abord fait penser à une femme de mauvaise vie. Mais n'allons pas trop vite. Puisque vous avez remarqué, les mots sont assez forts, ils sont même scandaleux, l'appellation qui est donnée. Ça fait penser à une femme de mauvaise vie. Et quand on lit, par exemple, les premières paroles du verset 14, « Alors elle ôta ses vêtements de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna. » Son accoutrement provocateur, le moins qu'on puisse dire, a sa raison d'être. Et sa raison d'être, eh bien, c'est la fin du verset 14. Car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. La raison, pourquoi elle s'est déguisée? Pourquoi elle s'est mise dans un accoutrement de courtisane? C'est qu'elle voyait qu'on lui avait fait une promesse et que la promesse n'était toujours pas là. Que la promesse lui était passée par-dessus la tête et qu'elle avait un homme, ce qui était son beau-père, cet homme, son beau-père qu'elle respectait, eh bien qui était pourtant un homme de Dieu et qui finalement disait et ne faisait pas. Et c'est pour ça qu'elle va prendre cet accoutrement, ce comportement qui est scandaleux, de s'habiller comme elle s'habille, et de faire ce qu'elle va faire, et c'est ce que nous allons découvrir. Et pourtant, permettez-moi de vous dire que Tamar, vous allez peut-être être choqués, mais Tamar est une femme formidable, et je vais vous expliquer pourquoi. Elle est une femme formidable. Parce qu'elle va faire ce qu'elle doit faire. Vous souvenez que c'est une païenne, elle n'a pas été enseignée dans les lois de la famille d'Abraham et de Jacob, etc., etc. Mais elle sait pourtant ce qu'il faut faire, et pourtant ce qu'elle va faire, ça va nous scandaliser. C'est-à-dire qu'elle va donner une bonne leçon à Judas, son beau-père. Comment a-t-elle l'outrecuidance de pouvoir donner une leçon à son beau-père? Comment se fait-il qu'elle se donne le droit de lui donner une leçon? Eh bien parce qu'il la mérite, Judas, la leçon. Et ça, ça fait partie de la main divine qui est capable de faire des choses qui vont nous étonner. Le paradoxe, c'est que Judas, le croyant, est rétrograde. Vous savez ce que c'est qu'un rétrograde? Celui qui regarde dans son rétroviseur. Spirituellement, hein. C'est un croyant rétrograde. Et Tamar, l'étrangère, la païenne, la cananéenne, qui a entendu parler de Dieu dans la maison de sa belle-famille, parce qu'elle n'y est pas rentrée comme ça, et on devait parler de Dieu, on devait parler des faits de Dieu, on devait parler des œuvres de Dieu, des miracles de Dieu, et elle, ça lui a donné la foi. Alors, on découvre que Tamar est une femme qui a la foi, et elle croit dans la promesse du Dieu de Judas pour la postérité qu'elle attend, quand bien même, et elle attend toujours, quand bien même, les hommes ne tiennent pas ou plus parole. Eh oui, Judas n'a pas tenu parole. Hein. Et vous en connaissez les raisons. Mais Tamar, elle s'est dit, ah ah oui, mais moi je crois quand même que Dieu existe. Moi je crois que Dieu m'a donné la promesse d'une postérité. Et là, j'ai eu un premier mari, il est mort. J'ai eu un deuxième mari, il est mort. J'ai eu un troisième, je l'attends toujours. Et mon beau-père qui m'a dit que... Eh bien, finalement, il me le donnerait, son fils. Et il l'a complètement oublié. Alors, elle y croit, c'est une femme de foi. C'est un bien triste spectacle que nous donne Judas dans cette affaire. Et ce qu'elle fait n'est certes peut-être pas très beau en apparence. Mais Tamar n'est pas poussée ni par la vengeance, ni par la frustration. Et vous savez, quand on fait les choses dans la vengeance, dans l'aigreur ou dans l'amertume de notre cœur, ça n'aboutit toujours que finalement, eh bien, amplifier le mal. Il faut avoir un cœur qui soit autrement. Et elle ne le fait pas dans ce caractère-là. Ce n'est pas pour se venger, ce n'est pas parce qu'elle est frustrée. Et ça, il faut le dire à la décharge de Tamar. Alors, le texte nous dit d'une manière très lapidaire, elle s'assit à l'entrée d'Enhaïm. J'ai vérifié dans la traduction hébraïque, de l'hébreu directement, qu'il n'est pas question d'entrée, mais il est question de carrefour. Au carrefour de la ville d'Enhaïm. Et vous savez ce que veut dire Enhaïm en hébreu? Ça veut dire deux sources. Cette ville s'appelait les deux sources, comme on pourrait l'avoir sur une pancarte à l'entrée d'un village chez nous. Deux sources, dont l'une était douce et l'autre était amère. Et c'est bien l'image du choix que nous avons à faire. On a toujours entre le choix du bien et du mal, entre le doux et l'amer. Et nous sommes vraiment à un carrefour. Et ça, c'est à tous les moments de notre vie. Et quelquefois, il y a des moments qui sont encore plus cruciaux que d'autres, où nous avons, là, nous sommes devant le carrefour des deux sources, et à quelle source allons-nous nous abreuver? Si c'est une source de douceur, nous y retrouverons la paix, la joie et toute la grâce dont nous avons besoin. Mais si c'est une source amère, alors à ce moment-là, eh bien, il va y avoir un feu qui va se mettre à l'intérieur de nous-mêmes, et il nous détruira ce feu, si nous ne crions pas à Dieu. Elle s'assit à l'entrée d'Enhaïm sur le chemin de Timna. Et vous savez que ce qu'a fait Judas a valeur de mauvais exemple. Ouais. Et vous allez vous souvenir d'une autre histoire dans la Bible. Puisque plus tard, beaucoup plus tard, un autre homme de Dieu, du nom de Samson, ça vous rappelle rien, Samson ? Commettra sa première glissade avec une femme philistine. Et il dira à son père, après avoir vu cette femme philistine, « Eh bien, mon père, donne-la-moi parce que je la veux, et elle me plaît. » Mais si on saute sur tout le monde comme ça, on va avoir des problèmes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on voit des choses qu'il ne faut pas se retenir. Parce qu'à ce moment-là, c'est terrible. Ce n'est pas parce que nous voyons des choses qu'il faut automatiquement. Et il dira à Samson à ce moment-là, « Eh bien, tu me la donnes parce que je la veux et elle me plaît. » Il y a bien des choses qui nous plaisent, et après, ça peut vraiment nous déplaire. Hein. C'est ce qui s'est passé. Et ça, c'était la première glissade. Et vous savez que Samson était un homme de Dieu. Il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Il avait été choisi miraculeusement par Dieu pour devenir le juste d'Israël. Ben, ça ne lui a pas empêché de faire la première glissade et après, il va en faire d'autres. Jusqu'au jour, on va lui crever les yeux, saisi par les Philistins, et on va l'amener à tourner tout le reste de sa vie, une meule à Gaza. Et c'est aussi sur ce chemin de Timna que Samson périra. Ironie. Ironie, quand Tamar regarde aux promesses de Dieu, Judas arrête les yeux sur une prostituée qui n'en est pas une. Versets 16 et 18. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon, ton bâton que tu as à la main. » Et il le lui donna, puis elle alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Voilà que l'insensé, Judas l'insensé, donne des gages de sa folie, selon une vieille expression française, courir la prétentaine. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Les aventures galantes et tout le reste. Et c'est à cela. Et nous voyons que là, il va faire, sans réfléchir, quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il va donner des gages de sa folie. Dans la corbeille du péché, il y a un chevreau, il y a un cachet. Ça, c'est ce qui marquait véritablement Un cachet, vous savez ce que c'est. Il est à votre nom, à votre adresse, avec votre numéro de téléphone et même avec votre site internet. Alors là, vous êtes vraiment repéré. Ben, c'était pas à l'époque, c'était pas comme ça, mais enfin, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Alors, le cachet, le cordon, le bâton de Judas, ces objets sont propres à faire reconnaître leur propriétaire. Et il les donne. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête pour faire des choses pareilles? Il les livre sans réflexion et s'est donné de gages, et c'est ainsi donner des gages au mal. Et quand on donne des gages au péché et au mal, donner des gages au malin. Et je peux vous dire qu'il ne va pas vous rater après. Ça, c'est clair et net. Parce que si vous avez un ennemi, c'est pas l'homme qui était votre ennemi. C'est le diable. Ne vous en prenez jamais aux hommes. Mais si vous devez vous révolter, comme il faut le faire, comme l'Écriture nous le demande. On n'a pas à en vouloir aux hommes. Mais il y en a un qui nous attend. Et quand on lui donne des gages, je peux vous dire qu'il va vous en il va vous réserver quelque chose. Ça viendra peut-être pas tout de suite, mais ça viendra peut-être quelque temps après, ça va vous retomber sur la figure en disant, mais paf, ça y est, j'avais pas pensé à ça. On appelle ça, depuis quelque temps, avec nos histoires de maladies animales, la traçabilité. Scandale. Elle devint enceinte de lui. Enceinte de son beau-père. Terrible. Ça va, vous? Parce que c'est l'histoire biblique, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et ça ne s'arrête pas là. Avec les rebondissements, le rebondissement qui s'ensuit. Verset 20-23. Judas envoya le chevreau par son ami la Dunamite. Alors vous avez remarqué que Judas est capable de faire des promesses qu'il ne tient pas quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, et il est capable de faire des promesses qu'il tient quand il s'agit de se vautrer dans le péché. Il envoya le chevreau par son ami la Dunamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvée et même des gens du lieu m'ont dit « Il n'y a point ici de prostituée. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, je suis quitte. » Je dirais que Judas a quand même un sacré toupet. Quand il dit « Ne nous exposons pas au mépris », il a du toupet pour dire ça. Et là, nous avons besoin de faire attention à ceci. Pour ne pas être méprisés un jour, ne soyons jamais méprisants. Vous savez, quand on humilie les gens, quand on méprise les gens, quand on les accuse à tort, quand on fait des choses qu'il ne faut pas faire, un jour ou l'autre, ça nous sera fait. Jésus nous dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, parce que lorsque vous serez jugés, eh bien on vous jugera avec une mesure qui sera secouée et qui débordera. » Faisons attention, c'est les principes de l'Évangile. Et moi j'y tiens aux principes de l'Évangile. Pour moi-même, ouais. Le comble est encore à venir quand on lit le verset 24. Où il est dit ceci, « Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas a dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Ça, c'est époustouflant. Ça, c'est quand même aberrant, une chose pareille. Et c'est Judas qui le dit. « Faites-la sortir et qu'on la brûle. » Le feu est déjà dans la bouche du coupable. Et le coupable, c'est Judas. Et c'est lui qui prononce les propres paroles. Judas qui aurait tout intérêt à se taire. Et c'est lui qui parle. Et c'est lui qui accuse. Et c'est lui qui condamne. Alors là, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est lui. On ne lui fait pas dire, c'est lui qui fait ça. Et il dit, mais qu'on la brûle. Mais Tamar, C'est la vérité de cette maxime bien connue, que j'ai un petit peu modifiée, vous me le permettrez. Vous connaissez cette maxime ? Qui rira bien, qui rira le dernier. Et moi j'ai mis, qui brûlera bien, qui brûlera le dernier. Le bon, l'honorable, le respectable Judas qui croit sauver pour son honneur en allumant le feu de son propre bûcher. Eh oui, c'est lui. Il est en train de mettre le feu à son propre bûcher, il est monté dessus, il ne s'en aperçoit pas. Ça vous rappelle une autre histoire, celle du fils aîné ? Quand le fils prodigue revient à la maison et que le père dit « Viens, on va faire la fête parce que ton fils qui s'est repenti revient à la maison, eh bien nous allons justement eh bien l'accueillir. » Vous connaissez le comportement du fils aîné ? Ton fils qui s'est vautré avec les prostituées, qui a dissipé tout ton bien, et ceci, et cela, etc., etc. Ça, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui est mauvais. Il est mauvais, cet état d'esprit. Le verset 25 nous dit ceci. « Comme on l'amenait dehors, Tamar, elle a envoyé un message à son beau-père, et elle dira ceci. « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Quand on fait mal, ou quand on fait le mal, n'oublions jamais que l'on laisse des traces, que l'on laisse des gages et autres pièces à conviction qui témoignent contre nous ou qui témoigneront contre nous tôt ou tard. Les choses les plus secrètes, nous dit Jésus, seront mises devant tout le monde. Si ce n'est pas ici-bas, ça sera de l'autre côté. Mais ce sera ici-bas aussi. Et ça portera témoignage contre nous, à notre charge. Tamar est une femme d'une grande noblesse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Jugeons plutôt. C'est elle la victime. Et vous remarquerez qu'elle n'accuse jamais. Elle n'accuse pas. Et elle ne citera même pas le nom de son coupable. Elle aurait pu dire, c'est mon beau-père, c'est Judas, regardez, je vous le montre, c'est bien lui, vous l'avez vu, hein, moi je me défends maintenant. Elle ne prononcera même pas son nom. Elle dira, ça appartient à l'homme, finalement à qui sont ces choses. Mais elle ne donnera même pas son nom. Elle dira seulement, en parlant des objets qu'elle détient, eh bien, c'est de cet homme-là qu'elle est enceinte, c'est tout. L'accusation est toujours une très très mauvaise défense. Parce que Dieu permettra, quand les accusations sont injustes, que ça se retourne contre celui qui accuse. Ça, c'est clair. Ça, il faut bien s'y attendre. Il y a rien à faire. C'est un principe biblique, c'est un principe de Dieu. Et moi, je dis que Tamar a vraiment une grandeur d'âme. Et le mot-clé, c'est « reconnais ». Reconnais à qui, je te prie, sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. C'est un mot qui a, en quelque sorte, un prolongement dans le mot « repentance ». Reconnais, repentance. C'est finalement reconnaître que pour aller vers la repentance. Dans le livre des Proverbes, une grande vérité nous est donnée. C'est celle-ci, je la rappelle pour mémoire. Il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Connaissez ce passage ? Ouais. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Cela ne nous fait-il pas comprendre que beaucoup piétinent, finalement, que beaucoup piétinent dans leur misère morale ? Ils s'asphyxient eux-mêmes, ils sont tourmentés eux-mêmes par le défaut de reconnaître leur faute. Ça se voit dans le monde, mais ça se voit aussi dans l'Église. Et ceux qui souffrent dans cette affaire, ce sont ceux qui s'emprisonnent eux-mêmes. Puisqu'il nous est dit que celui qui cache ses fautes ne prospère point. Donc, on ne peut pas dire que c'est les autres. C'est soi-même. C'était bien le problème qui nous est décrit d'une manière admirable par David. Dans le psaume 32, vous pourrez le relire. Il est dit « Mais tant que je cachais mes fautes, eh bien, mon tourment qui était à l'intérieur de moi-même était comme la chaleur de l'été. Je perdais le goût des aliments, de ceci et cela, parce que finalement, eh bien, c'était une misère morale, une misère intérieure, une profonde indigence. Et puis à un moment donné, il a fait comme le fils prodigue David. Il a dit « J'irai vers l'Éternel, j'avouerai mes fautes à l'Éternel, et tu as enlevé la peine de mon péché. » Mais Dieu est capable de faire miséricorde. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais qu'il faut que ce soit une vraie repentance avec les fruits de la repentance. S'il n'y a pas de fruits de la repentance, ça ne sert à rien. On s'illusionne soi-même. Parce que Jésus délivre quand il y a une véritable repentance et il y a un véritable pardon. Et c'est à ce moment-là que Judas va reconnaître, ou plutôt il va connaître un électrochoc spirituel salutaire. Verset 26, Judas les reconnut, il les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Shéla, mon fils. Il ne la connut plus. Ça s'appelle la vérité du cœur. Et ce n'est pas une vérité de parole, ce n'est pas une vérité de qui sort de notre bouche. Mais il faut que ce qui sort de notre bouche ait son correspondant réel et profond au fond de notre cœur. C'est la vérité du cœur dont nous parlions tout à l'heure. Parce qu'il y a des preuves. Parce que Judas, sans s'en apercevoir, a fait des tâches. Oui, il s'est souillé, il a fait des tâches. Et quand on fait des tâches, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Et il ne faut surtout pas faire le contraire, c'est-à-dire accuser pour se justifier. Parce que celui qui accuse pour se justifier sera à son tour accusé, on l'a dit tout à l'heure. Et par contre, celui qui demandera pardon, alors à ce moment-là, il sera justifié et il sera pardonné. Et il y a encore de l'espoir quand c'est comme ça. Elle est moins coupable que moi, dira-t-il. C'est une mémoire qui se réveille douloureusement pour entreprendre le vrai travail de repentance. Parce qu'il y a un vrai travail de repentance qui doit se faire. Dans le livre d'Osée, le prophète, chapitre 6, si je me souviens bien, les Israélites qui avaient péché disent « Allez, allons vers l'Éternel, nous lui apportons nos fautes et tout ça, et puis demain, il nous pardonnera et ceci et cela, etc. etc. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dira « Non, moi ça ne marche pas avec moi. » Parce que la repentance en parole, ce n'est pas une repentance, il faut que ce soit des actes et des fruits. Vous relirez Osée. Prophète Osée, chapitre 6, me semble-t-il. Et Dieu dira, mais moi je n'accepte pas votre repentance, parce que tout ça, c'est pas la vérité, c'est pas le fruit. Paul dira dans le livre des Actes qu'il prêchait l'évangile avec la repentance digne des fruits de la repentance. Et voici l'essentiel à retenir et je termine. Le plus grave devant Dieu, mes frères et sœurs, et ça je voudrais que nous puissions nous en souvenir, le plus grave devant Dieu, ce Dieu qui voit tout, n'est pas tant la faute elle-même, mais de ne pas vouloir le reconnaître et de faire comme si. Et c'est ça le plus grave pour Dieu. C'est ça le plus grave pour le Seigneur. On peut tous commettre des fautes. On peut tous se prendre les pieds dans une ficelle ou dans une corde. On peut tous tomber d'une manière ou d'une autre. Et qui peut dire qu'il sera plus fort que les autres? Ça, c'est vrai. On le reconnaît et on le sait. Mais le problème, et ce que Dieu n'admet pas, c'est que finalement nous disions « Non, je ne veux pas » et qu'à ce moment-là, on continue à faire comme si. Ni vu ni connu et je continue. Ça s'appelle de la dissimulation. De la dissimulation. Quelle histoire abracadabrante. Boum. Quelle histoire sulfureuse! Mais regardez comment ça se termine. Je vous ai dit tout à l'heure au début que Dieu ne se prend pas dans nos péchés et dans nos fautes, ça n'empêchera pas son plan de se faire. Et ça n'empêchera pas l'Église de continuer et de vivre. Ça, il faut en être sûr. Écoutez verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, Tamar, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main, la sage-femme le prit et y mit un fil cramoisi en disant « Celui-ci sur le premier ». Mais il retira sa main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérets. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zéra, ou Zérak, comme vous voulez, peu importe. Des jumeaux vont naître. Et figurez-vous qu'ils seront les aïeux du roi David. Qui ? Lui-même sera l'ancêtre de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce qu'avec un monde sale, avec un monde qui se vautre dans le péché, toi tu es le Dieu Saint, tu es capable, par ton sacrifice, par ta sainte volonté, de changer le mal en bien. De changer le mal en bien. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous serions devenus si nous n'avions pas eu le Seigneur dans notre vie ? S'il ne nous avait pas donné, eh bien, de comprendre sa parole, s'il ne nous avait pas poussé encore à la repentance. Et moi je dis que quand un homme ou une femme est poussé à la repentance, eh bien c'est l'espoir pour lui, c'est la vie. Mais quand il ne ressent plus rien, c'est la mort. C'est la mort. Alors ils vont naître et ils vont devenir les ancêtres dans la généalogie qui va nous amener jusqu'à celui qui sera donné pour notre salut. Le premier s'appelle Pérets. Et ça veut dire « quelle brèche tu as faite » ou « sortie violente » parce que le premier est voulu sortir, il est rentré et puis c'est le deuxième qui est sorti. Donc imaginez-vous un peu ce que ça a pu être cet accouchement. Et permettez-moi que si on lui a donné le nom de Pérets, qui veut dire tout simplement « brèche », eh bien cela nous parle d'une manière admirable de l'œuvre de rédemption jusqu'à Golgotha où Jésus en montant sur la croix a fait une brèche pour le salut et pour le pardon de nos péchés. Dans le royaume du diable et dans le royaume de la mort et dans le royaume du malin. Une brèche. Et Golgotha, c'est une brèche. Une brèche de salut. Une brèche de rédemption pour notre propre salut et le pardon de nos péchés. Et c'était certainement aussi une brèche qui devait inspirer Judas de dire « Tu vois, Judas, tu as reconnu, tu es pardonné, maintenant tu as donné les fruits de ta repentance. Eh bien, l'enfant qui va naître de ton péché, eh bien, ce sera une brèche pour que tu t'en sortes. » Pour que tu puisses te pardonner aussi toi-même. Et puis le deuxième, il s'appelle Zéra. Ça veut dire lumière qui se lève. C'est pas beau ça ? Lumière qui se lève. Et il a un fil cramoisi à la main. C'est-à-dire que c'est un fil qui est de couleur rouge. Et le sang, c'est quoi ? Sang bleu ? Alors vous êtes royal si vous avez du sang bleu. Hein. Du sang rouge. Qui conduit les hommes à la repentance en vérité. Et qu'est-ce qui nous a conduit finalement à la vérité, au salut en vérité ? Eh bien, c'est l'œuvre du sang de Jésus à la croix du calvaire. Parce que la vérité est toujours lumière. Et je terminerai notre propos ce matin sur ce texte qui est celui d'un homme qui pouvait écrire, qui pouvait dire « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. » En apprenant la loi de ta justice. Je ne rougirai point, je te louerai dans la droiture de mon cœur. Puisse Dieu mettre dans notre cœur la vérité et la justice. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est là, Seigneur, pour nous enseigner. Et ta parole est là pour nous donner, Seigneur, nous montrer et nous rappeler quelles sont les voies du salut. Nous te bénissons et nous te remercions parce que nous croyons à ta fidélité, nous croyons à ta miséricorde, nous croyons à ton pardon, dont le prix a été payé à la croix du calvaire, parce que finalement, eh bien, là, le fil rouge, eh bien, Seigneur, c'est ce fil de sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Alors merci Seigneur, et tu veux nous rappeler, encore une fois de plus, que tout cela peut se réaliser que dans la mesure où au fond de notre cœur, eh bien tu mets cet amour de la vérité et que tu nous donnes, Seigneur, le respect de ta justice. Nous voulons dire, à l'instar de David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, amen.